Je suis très heureux de pouvoir vous adresser aujourd'hui quelques mots.
Thomas Mann.
Il y a trop longtemps que j'ai eu l'occasion de parler à des Français dans leur langue, et c'est pourquoi j'en ai eu un peu perdu l'habitude. Dois-je vous dire que, comme tout Allemand civilisé, je suis plein d'admiration reconnaissante pour le génie français.
Ça peut pas faire de mal.
Pendant toute ma vie, j'ai été un écrivain allemand qui désirait une Allemagne européenne. Très contrairement à certains Allemands hantés par le rêve exécrable d'une Europe allemande.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Qu'était-ce donc que la vie ? Personne ne le savait. Personne ne connaissait le point de nature d'où elle jaillissait, où elle s'allumait. La maladie était la forme dépravée de la vie, mais la vie, pour sa part, peut-être n'était-elle elle aussi qu'une maladie infectieuse de la matière. Le premier pas vers le mal, la volupté et la mort étaient sans nul doute partis de là où, provoqués par le chatouillement d'une infiltration inconnue, s'opérait le premier degré du substantiel, la transition de l'immatériel au matériel. C'était le péché originel. La vie était une progression sur le sentier aventureux de l'esprit devenu impudique, un réflexe de chaleur de la matière éveillée à la sensibilité. Elle était sensuelle jusqu'au dégoût, l'impudeur de la nature devenue sensible à elle-même, qui devenait forme, image et beauté, qui devenait le principe de la sensualité et du désir. Les livres s'étaient accumulés sur la petite table, l'un était tombé par terre, à côté de la chaise longue, et celui que Hans Carstorp avait feuilleté en dernier lieu pesait sur son estomac, lui coupait le souffle. Il avait lu la page du haut en bas, son menton avait atteint sa poitrine, les paupières s'étaient fermées sur ses yeux bleus et naïfs. Il voyait l'image de la vie, ses membres florissants, la beauté portée par la chair parfumée. Elle se pencha vers lui, sur lui. Il sentit son odeur organique, sentit le choc de son cœur battant. Une suave chaleur enlaça son cou, et tandis que, défaillant de plaisir et d'angoisse, il posait ses mains sur ses bras d'une exquise fraîcheur, il sentit sur ses lèvres la succion humide de son baiser. Telles sont les méditations et les douces rêveries qui occupent le héros du célèbre roman de Thomas Mann, La montagne magique. Écrit entre 1911 et 1922 après un séjour de l'écrivain allemand à Davos, en Suisse, où il accompagne sa femme en cure, ce roman de plus de 800 pages compte auprès de l'Ulysse de Joyce et de l'Homme sans qualité de Musil parmi les chefs-d'œuvre de la littérature européenne du XXe siècle. Publiées dans les années 20, ces trois sommes magistrales ont ceci en commun qu'elles font l'autopsie d'une même société, décadente et menacée, celle de l'Occident avant le traumatisme de la Première Guerre mondiale. Ce soir, parcourons ce roman vertigineux qui explore les mystères de la vie et de la mort, de l'amour et de la maladie. Ce roman du temps, comme le présente lui-même Thomas Mann dans son avertissement au lecteur. Au cours de l'été 1907, un jeune homme, citadin allemand, originaire de Hambourg, orphelin, élevé par son oncle, décide de rendre visite à son cousin, atteint de tuberculose et pensionnaire au sanatorium de Berghof à Davos, dans les montagnes suisses orientales. Dans le train, une étrange inquiétude l'envahit soudain. Se doute-t-il que ce séjour de 3 semaines, apparemment anodin, va bouleverser le cours de sa vie? Au sanatorium Berghof, Hans Carstorp s'installe dans la chambre numéro 34, contiguë à celle de son cousin Joachim. À l'occasion de sa première nuit dans l'établissement, le narrateur, omniscient et volontiers ironique, retrace l'histoire familiale du nouveau pensionnaire. Fils de négociant portuaire décédé prématurément, d'abord élevé par son grand-père sénateur, puis à la mort de celui-ci par un oncle consul, l'hôte de Marx semble avoir toutes les qualités, et les défauts d'un fils de bonne famille. Mais bientôt, celui qui se destine à la profession d'ingénieur révélera des prédispositions bourgeoises à la douce et cruelle oisiveté du sanatorium, lieu de repos forcé, mais aussi hanté par la maladie et la mort. Extrait du chapitre 2, chez Lettien Appel, de l'état moral de Hans Carstorp. L'individu peut envisager toutes sortes de buts personnels, de fins, d'espérances, de perspectives, où il puise une impulsion à de grands efforts et à son activité, mais lorsque l'époque elle-même, en dépit de son agitation, manque de but et d'espérance, lorsqu'elle se révèle en secret désespérée, désorientée et sans issue, lorsqu'à la question posée, consciemment ou inconsciemment, sur le sens suprême de tout effort et de toute activité, elle oppose le silence du vide, cet état de choses paralysera justement les efforts d'un caractère droit, et cette influence, par-delà l'âme et la morale, s'étendra jusqu'à la partie physique et organique de l'individu. Pour être disposé à fournir un effort considérable, il faut une solitude et une pureté morale qui sont rares et d'une nature héroïque, ou une vitalité particulièrement robuste. Hans Carstorp ne possédait ni l'une ni l'autre, et il n'était ainsi donc qu'un homme, malgré tout, moyen, encore que dans un sens des plus honorables. Nous ne soulevons pas ici la question de savoir s'il était médiocre ou mieux que médiocre, question à laquelle nous ne voulons pas répondre brièvement. Car nous ne nous considérons nullement comme l'apologiste de Hans Carstorp et nous émettons la supposition que le travail dans la vie le gênait tout simplement dans sa jouissance paisible des Marie Mancini. Hans Carstorp s'inquiéta d'une profession qui lui permettrait de faire bonne figure devant lui-même et aux yeux des autres. Et lorsqu'il eut choisi, ce fut à l'instigation du vieux Wilms, de la maison Thunder & Wilms, qui, un samedi soir à la table de Twist, dit au consul Tien Appel, « Hans Carstorp devrait étudier la construction navale, ce serait une excellente idée, et il pourrait entrer chez moi, je ne manquerai pas d'avoir l'œil sur lui. » Il fit grand cas de sa profession, estima sans doute que ce serait un travail rudement compliqué et pénible, mais aussi un métier remarquable, important et de grande allure, et en tout cas pour sa pacifique personne infiniment préférable à celui de son cousin Joachim Ziemsen, le fils de la belle-sœur de feu sa mère qui voulait absolument devenir officier. Or Joachim Ziemsen n'avait pas la poitrine très solide, comme Hans Carstorp jugea avec une pointe de dédain. En ce qui le concernait lui-même, Hans Carstorp ne fut pas reconnu apte au service militaire. Son être intime y répugnait et sut l'empêcher. On pouvait être curieux de savoir à quel parti il adhérait un jour, le jeune Carstorp. Les apparences pouvaient être trompeuses, mais somme toute, il avait tout à fait l'air que l'on n'avait pas lorsque les démocrates pouvaient compter sur vous, et la ressemblance avec le grand-père était évidente. Peut-être tiendrait-il de celui-ci et deviendrait-il un frein, un élément conservateur. C'était bien possible. Et le contraire aussi pouvait être vrai. Car finalement, il était ingénieur, un futur constructeur de bateaux, un homme du commerce mondial et de la technique. Il était donc possible que Hans Carstorp se mêlât aux radicaux, qu'il se posât en homme d'action, libre d'attache comme un juif, sans piété comme un américain, disposé à soutenir les citoyens de l'opposition. Dans ses yeux bleus, sous ses sourcils d'un blond roux, on ne pouvait lire aucune réponse à toutes ces questions. Et lui-même sans doute n'eût su en donner, lui, Hans Carstorp, cette page encore vierge. Lorsqu'il entreprit le voyage au cours duquel nous l'avons rencontré, il était dans sa 23e année. En vue de son examen à l'école polytechnique de Danzig, qu'il avait passé récemment sans éclat ni bravo, mais très convenablement, il avait dû travailler rudement et avec persévérance, de telle sorte qu'après, il parut cependant plus fatigué qu'à son habitude. Le docteur Heidekind avait exigé un changement d'air, mais long et complet. Il estimait que Hans Carstorp, avant d'entrer au chantier de construction, ferait bien de passer quelques semaines à la montagne. Et pourquoi ne rendrait-il pas visite à Joachim Ziemsen? C'était une proposition très naturelle. En effet, Joachim Ziemsen était malade. Non pas malade comme Hans Carstorp, mais d'une manière vraiment fâcheuse, qui contrariait sa carrière militaire. Voici qu'il était depuis 5 mois au sanatorium international Berghof et s'ennuyait à mort, comme il l'écrivait sur des cartes postales. Rien n'était plus indiqué à Hans Carstorp que d'aller tenir compagnie à son cher cousin. Il partit donc pour 3 semaines. « Bientôt, le court séjour estival se transforme en une longue convalescence. La vie au sanatorium est une véritable épreuve pour Hans Castorp, épreuve du temps immobile qui s'égrène là-haut, dans la lente répétition des jours, épreuve du corps qui ne parvient pas à s'acclimater et finit par succomber à la maladie. Alors que son séjour de 3 semaines s'achève, le malheureux souffre d'un rhume qui retarde son départ. Lors d'une première consultation, Hans Castorp apprend qu'il est atteint d'une maladie pulmonaire. Après 4 semaines d'alitement, il se rend, en compagnie de son cousin Joachim, dans le mystérieux laboratoire de radiographie du docteur Behrens pour un examen de contrôle. Extrait du chapitre 5 « Seigneur, je vois ». Ah, dit-il, voilà nos 2 Dioscures, Castorp et Pollux. Pas de Jérémiade, je vous prie. Attendez donc tous les deux. Je crois bien que vous avez peur, Castorp, de nous ouvrir votre fort intérieur. Rassurez-vous, tout cela fonctionne très esthétiquement. Avez-vous déjà vu ma galerie privée ? Et il amena Hans Castorp par le bras devant des rangées de verres sombres derrière lesquels il alluma la lumière en tournant le commutateur. Ils s'éclairèrent alors et révélèrent leurs images. Hans Castorp voyait des membres, des mains, des pieds, des rotules, des hauts et des bas de cuisses, des bras et des fragments de bassin. Mais la forme vivante, arrondie de ces fragments de corps humains, était schématique et avait un contour estompé, comme un brouillard et un halo pâle. Elle entourait son noyau clair qui ressortait avec une netteté lumineuse. « Très intéressant, » dit Hans Castorp. « C'est en effet intéressant, » répondit le médecin. « Utile leçon de choses pour jeunes gens. Anatomie par la lumière, vous comprenez ? Triomphe des temps nouveaux. Cela, c'est un bras de femme. » Vous vous en rendez compte par sa mignardise. C'est avec cela qu'elle vous enlace à l'heure du berger, vous comprenez ? Il rit et les plaques s'éteignirent. Hans Castorp se retourna vers l'endroit où l'assistant du docteur Behrens procédait à la radiographie de Joachim. Pendant 2 secondes, les forces terribles dont le déploiement était nécessaire pour transpercer la matière jouèrent. Des courants de milliers de volts, de 100 000 volts. Des décharges éclatèrent comme des coups de feu. Une étincelle bleue grésilla à la pointe d'un appareil. Des éclairs montèrent en crépitant le long d'un mur. Quelque part, une lumière rouge, semblable à un œil, regardait, calme et menaçante, dans la pièce. Puis tout s'apaisa. Les phénomènes lumineux s'évanouirent. Et Joachim, en soupirant, rendit son souffle. C'était fait. « Au prochain délinquant !» dit Behrens, et il toucha Hans Castorp du coude. « Vous aurez un exemplaire gratuit, Castorp, grâce auquel vous pourrez encore projeter au mur les secrets de votre sein pour vos enfants et petits-enfants. » Le docteur Behrens instruisit en personne le novice de la manière dont il devait s'asseoir et se tenir. « Enlacez, dit-il, enlacez donc la planche. Si cela vous fait plaisir, imaginez que c'est tout autre chose. Et serrez-la bien contre votre poitrine comme si des sensations voluptueuses y étaient liées. Bien, comme ça. Respirez, halte, commanda-t-il. Un petit sourire, s'il vous plaît. » Hans Castorp attendit en clignotant, le poumon plein. Dans son dos, l'orage grésilla, crépita et s'apaisa. L'objectif avait regardé au-dedans de lui. Il descendit, troublé et étourdi par ce qui venait de lui arriver. « Bravo !» dit le médecin. « Nous allons regarder nous-mêmes à présent. » Il éteignit le plafonnier et une profonde obscurité enveloppa les alchimistes. Puis lentement, avec un reflet laiteux comme une fenêtre qui s'éclaire, surgit de la pénombre le pâle rectangle d'un écran devant lequel le docteur Behrens était à cheval sur un tabouret de cordonnier, son nez camus collé contre la vitre qui permettait de voir à l'intérieur d'un organisme humain. Joachim avait pris place derrière la vitre. « Voyez-vous, jeune homme, voyez-vous le diaphragme ? Cela, c'est la pleurésie qu'il a eue à l'âge de 15 ans. » Mais l'attention de Hans Castorp était absorbée par une sorte de sac, une masse sombre, ayant quelque chose de bestial et d'informe, qui apparaissait derrière la colonne centrale, sur la droite du spectateur, qui se dilatait régulièrement et se contractait de nouveau, un peu à la manière d'une méduse qui nage. « Voyez-vous son cœur ?» demanda Behrens en désignant du doigt ce sac animé de pulsations. « Grand Dieu !» C'était le cœur si fier de Joachim que Hans Castorp avait sous les yeux. « Oui, « Oui, je vois, » dit-il plusieurs fois. « Seigneur, je vois. Je vois ton cœur, » dit-il d'une voix étranglée. Violemment ému par tout ce qu'il voyait, ou plus exactement par le fait de le voir, il sentait son cœur assailli par des doutes secrets, se demandait si vraiment tout se passait ici normalement, si ce spectacle dans cette obscurité trépidante et grésillante était vraiment licite. Et le plaisir inquiet de la curiosité indiscrète se mêlait dans sa poitrine à des sentiments d'émotion et de piété. Quelques minutes plus tard, il était lui-même en plein orage sur la sellette à la place de Joachim. De nouveau, le médecin guettait à travers la vitre laiteuse. Cette fois-ci, il épiait l'intérieur de Hans Castorp. Et de ses exclamations à mi-voix, de ses jurons et de ses expressions, il semblait résulter que ce qu'il trouvait répondait à ses prévisions pessimistes. Il poussa ensuite l'amabilité jusqu'à permettre que le pensionnaire, sur ses instants de prière, considérât sa propre main à travers l'écran lumineux. Et Hans Castorp vit ce qu'il avait dû s'attendre à voir, mais ce qui, en somme, n'est pas fait pour être vu par l'homme, et ce qu'il n'avait jamais pensé qu'il fût appelé à voir. Il regarda dans sa propre tombe. Cette future besogne de la décomposition, il la vit, préfigurée par la force de la lumière. La chair dans laquelle il vivait, décomposée, anéantie, dissoute en un brouillard inexistant, et au milieu de cela, le squelette de sa main droite. Avec des yeux pénétrants de visionnaire, et pour la première fois de sa vie, il comprit qu'il mourrait.
« Spectral, hein? Oui, il y a incontestablement quelque chose de fantomatique là-dedans, » dit le docteur Behrens.
Et puis il dompta les forces. Le plancher cessa de vibrer, la fenêtre magique s'enveloppa de nouveau de ténèbres, le plafonnier s'alluma. Les deux jeunes gens se hâtèrent de se rhabiller et ils s'en furent.
Il y a des œuvres qu'on respecte et qu'on admire. Il y a des œuvres qu'on aime comme des amis.
Jean Cocteau.
J'ai eu la chance de lire toujours Thomas Mann pendant de longues haltes, lorsque j'étais malade ou opéré. J'étais livré pieds et poings liés à sa magie. Il y a le sang rouge, il y a le sang bleu, il y a le sang invisible de l'âme, et il y a le sang noble que je baptise sang léger dans ma pièce des chevaliers de la table ronde. Ceux qui le possèdent comprennent le langage des oiseaux, mais ils payent cher ce privilège. C'est le sang léger qui habite les poètes et qui les tourmente. C'est le sang léger qui circule dans l'œuvre de Thomas Mann et même lorsqu'elle semble lourde, lui donne des ailes profondes.
Quelques mois plus tard, par une belle nuit de carnaval. Les mois passent avec leurs fêtes rituelles. Noël, Nouvel An, bientôt Pâques. Au sanatorium, l'oisiveté est mère de tous les vices. La paresse, incitée lors des cures de repos obligatoires. La gourmandise, sollicitée au cours des 5 repas quotidiens. Mais aussi une certaine tendance à la volupté, qui se vérifie par les nombreux flirts et scandales qui animent le cercle des pensionnaires. Dès les premiers jours, Hans Castorp est tombé amoureux d'une belle Russe, Claudia Chocha, qu'il n'ose aborder. Mais ce soir de carnaval, tout est permis. Sous prétexte de participer à un concours de dessin, Hans Castorp s'adresse enfin à Claudia pour lui demander un crayon. À travers cette scène, Hans Castorp revit un souvenir d'adolescence où, amoureux d'un garçon, il ne lui a parlé qu'une seule fois pour lui demander un crayon. Hans Castorp et Claudia se sont isolés dans un petit salon. Elle vient de lui annoncer son départ dès le lendemain. Hans Castorp est sous le choc. Voici un extrait du chapitre 5 intitulé « Nuit de Valpurgis ». Tout le monde se retire, dit Madame Chauchin. C'était les derniers. Il se fait tard. Eh bien, la fête du carnaval est finie. Vous connaissez les conséquences, monsieur ? C'est un sujet qui ne donne pas beaucoup à penser. Tu es un petit bonhomme convenable, de bonne famille, d'une tenue appétissante, disciple docile de ses précepteurs, et qui retournera bientôt dans les plaines pour oublier complètement qu'il a jamais parlé en rêve ici, et pour aider à rendre son pays grand et puissant par son travail honnête sur le chantier. Voilà ta photographie intime faite sans appareil. Tu la trouves exacte, j'espère. Il y manque quelques détails que Behrens y a trouvés. Ah, les médecins en trouvent toujours. Ils s'y connaissent. Et ma fièvre, d'où vient-elle ? Allons donc. C'est un incident sans conséquence qui passera vite. Non, Claudia. Tu sais bien que ce que tu dis là n'est pas vrai. Tu le dis sans conviction, j'en suis sûr. La fièvre de mon corps et le battement de mon cœur harassé et le frissonnement de mes membres, c'est le commencement d'un incident, car ce n'est rien d'autre. Et son visage pâle, aux lèvres tressaillantes, s'inclina vers le visage de la femme. Rien d'autre que mon amour pour toi. Oui, cet amour qui m'a saisi à l'instant où mes yeux t'ont vu, ou plutôt que je t'ai reconnu quand je t'ai reconnu toi. Et c'était lui, évidemment, qui m'a amené à cet endroit. Quelle folie! Oh, l'amour n'est rien s'il n'est pas folie, une chose insensée, défendue, et une aventure dans le mal. Autrement, c'est une banalité agréable, bonne pour faire des petites chansons. Mais quant à ce que je t'ai reconnu et que j'ai reconnu mon amour pour toi, oui, c'est vrai, je t'ai déjà connu, anciennement. Toi, et tes yeux merveilleusement obliques, et ta bouche, et ta voix. Une fois déjà, lorsque j'étais collégien, je t'ai demandé ton crayon pour faire enfin ta connaissance, parce que je t'aimais irraisonnablement. Et c'est de là, sans doute, c'est de mon ancien amour pour toi que ces marques me restent, que Behrens a trouvées dans mon corps et qui indiquent que jadis aussi j'étais malade. Ses dents claquèrent, et tandis qu'il divaguait, il s'agenouillait devant elle, la tête penchée et tremblant de tout son corps. « Je t'aime, » balbutia-t-il, « je t'ai aimé de tout temps, car tu es le toi de ma vie, mon rêve, mon sort, mon envie, mon éternel désir. « Allons donc, » dit-elle. Si tes précepteurs te voyaient. Mais il secoua la tête avec désespoir, la face tournée vers le tapis, et répondit : Je m'en ficherai, je m'en fiche de la République éloquente et du progrès humain, car je t'aime. Elle lui caressa doucement de sa main les cheveux coupés ras de la nuque. « Petit bourgeois, » dit-elle. « Joli bourgeois à la petite tache humide. Est-ce vrai que tu m'aimes tant ?» Et exalté par ce contact, la tête rejetée en arrière et les yeux fermés, il continua de parler. « Oh, l'amour, tu sais. Le corps, l'amour, la mort, ces trois ne font qu'un. Car le corps, c'est la maladie et la volupté, et c'est lui qui fait la mort, oui. Ils sont charnels tous deux, l'amour et la mort. Et voilà leur terreur et leur grande magie. Mais la mort, tu comprends, c'est d'une part une chose malfamée qui fait rougir de honte, et d'autre part, c'est une puissance solennelle et majestueuse, parce qu'elle est l'histoire et la noblesse et la pitié et l'éternel et le sacré. Or, de même, le corps, lui aussi, et l'amour du corps sont une affaire indécente et fâcheuse, mais aussi il est une grande gloire adorable, image miraculeuse de la vie organique, sainte merveille de la forme et de la beauté, et l'amour pour lui, pour le corps humain, c'est une puissance plus éducative que toute la pédagogie du monde. Oh, enchantante beauté organique, pleine du secret fébrile de la vie et de la pourriture. Regarde la symétrie merveilleuse de l'édifice humain, les épaules et les hanches, et le nombril au milieu dans la mollesse du ventre, et le sexe obscur entre les cuisses. Regarde la peau soyeuse du dos qui descend vers la luxuriance double et fraîche des fesses. Quelle fête immense de les caresser, ces endroits délicieux du corps humain. Fête à mourir sans plainte après. Oui, mon Dieu, laisse-moi sentir l'odeur de la peau de ta rotule. Laisse-moi sentir l'exhalaison de tes pores et tâter ton duvet, image d'eau et d'albumine destinée pour l'anatomie du tombeau. Et laisse-moi périr mes lèvres aux tiennes. Il n'ouvrit pas les yeux après avoir parlé. Il resta tel, sans bouger, la tête dans la nuque, les mains, qui tenaient le petit porte-mine en argent, écartées, tremblant et vacillant sur ses genoux. Elle dit « Tu es en effet un galant qui sait solliciter d'une manière profonde » à l'allemande, et elle le coiffa de son bonnet de papier. Adieu, mon prince de carnaval. Vous aurez une mauvaise fièvre ce soir, je vous le prédis. Se disant, elle glissa de sa chaise vers la porte, dans l'embrasure de laquelle elle hésita, à demi retournée, la main sur la poignée de la porte. Par-dessus l'épaule, elle dit très bas, « N'oubliez pas de me rendre mon crayon. » Et elle sortit.
Wer heutzutage 75 Jahre alt wird,
Thomas Mann,
blickt auf ein Leben zurück, das überreich war an wilden Weltbegebenheiten.
Un an et demi plus tard, retrouvons Hans Castorp en plein deuil. L'été marque le premier anniversaire de l'arrivée de Hans Castorp au sanatorium. Après le départ de Claudia, un autre événement va bouleverser la vie du jeune homme. À l'automne, Joachim lui annonce son départ imminent pour rejoindre la vie militaire contre la vie du docteur Behrens. Pour Hans Castorp, des mois tristes et solitaires se succèdent, pendant lesquels la conversation habituelle avec ceux qu'il appelle ses pédagogues, l'écrivain italien Ludovico Settembrini et le jésuite Léon Nafta, ne le distraient plus. Mais 6 mois plus tard, Joachim est de retour. Son état de santé s'est dangereusement aggravé. Bientôt, Hans Castorp devine chez son compagnon d'autres signes irrévocables. Extrait du chapitre 6, En soldat et en brave. Ainsi, les jeunes gens vécurent-ils de nouveau côte à côte, comme autrefois. Même, pour que leur situation antérieure ressuscitât encore plus complètement, Joachim reprit possession de son ancienne chambre à côté de celle de Hans Castorp. En réalité, et au point de vue sentimental, il en allait toutefois ainsi que c'était désormais Joachim qui vivait aux côtés de Hans Castorp et non plus Hans Castorp auprès de son cousin. C'était le premier qui était maintenant l'habitant sédentaire dont Joachim, croyait-il, ne faisait que partager l'existence momentanément et en visiteur. Car Joachim s'efforçait avec une fermeté rigide de garder en vue le délai fixé pour octobre, bien que certaines parties de son système nerveux ne se résignassent pas à suivre une conduite conforme à ses espoirs. Qu'arrivait-il à l'honnête Joachim ? Ces derniers jours, son regard était devenu incertain et timide. Pendant leur promenade, Joachim marchait à côté de Hans Karstorp, la tête baissée. Il regardait à terre comme s'il considérait le sol. C'était si étrange, comme si déjà il appartenait à la terre. Mon Dieu, nous lui appartenons tous, tôt ou tard. Mais si jeune, et avec une si bonne volonté de servir sous le drapeau, c'est quand même amer de lui appartenir à si bref délai. Hans Karstorp trouva beaucoup d'innocence dans la manière d'être de Joachim durant ces semaines, et il comprit que son cousin savait, sans doute, et qu'il observait sur ce savoir un silence convenable. Mais pourquoi l'expression d'une telle timidité trouble reparaissait-elle dans ses yeux doux ? Était-ce parce qu'il savait que ses joues se creusaient, que ses yeux grandissaient ? Devant quoi et devant qui se baissait et se dérobait son regard autrefois si franc ? Comme elle est étrange, cette pudeur devant la vie de la créature qui se réfugie dans une cachette pour crever, persuadée qu'elle ne peut attendre de la nature extérieure aucun respect ni aucune pitié devant sa douleur et sa mort. Telle est la nature à l'ordinaire. Mais une pitié et un amour profondément humain gonflaient le cœur de Hans Karstorp lorsqu'il voyait cette pudeur instinctive dans les yeux du pauvre Joachim. Behrens ordonna un repos continu au lit pour épargner les forces du malade. C'était donc la veille du jour où Joachim se mit au lit, le dernier soir où il était sur pied, que Hans le trouva en conversation avec la belle Maroussia, qui riait toujours sans raison. Maroussia au petit mouchoir qui sentait l'orange et à la poitrine extérieurement si bien conformée. C'était après dîner, durant la réunion du soir dans le hall. Hans Karstorp s'était arrêté au salon de musique et sortit pour chercher Joachim. Il le trouva, le visage penché vers Maroussia, qu'il le regardait de ses yeux bruns et ronds. Hans Karstorp s'empressa de faire un pas en arrière devant ce spectacle. Joachim se confiant sans réserve à cette Maroussia à la poitrine opulente, à la table de laquelle il avait été assis si longtemps sans échanger une seule parole avec elle, devant qui il avait si souvent baissé les yeux, tandis que sa figure pâlissait lorsqu'il était question d'elle. Ce spectacle bouleversa Hans Karstorp, plus que tous les signes d'affaiblissement qu'il avait observés ces derniers jours. « Oui, il est perdu. » pensa-t-il. Et il s'assit en silence au salon de musique pour laisser à Joachim le temps de ce qu'il s'accordait encore ce dernier soir. Deux choses étaient désormais claires et l'on ne pouvait s'y tromper. Premièrement, que Joachim allait à la mort en toute conscience et deuxièmement, qu'il le faisait en paix avec lui-même. Plus tard, alité, il lui était devenu pénible de se raser et il avait cessé de le faire. Sa figure cireuse aux yeux doux était maintenant encadrée d'un collier de barbe noire, d'une barbe de guerrier, comme les soldats la laissaient pousser en campagne et qui, de l'avis de tous, lui prêtait d'ailleurs une beauté virile. Oui, Joachim, de jeune homme, était devenu un homme mûr. Il vivait vite, comme un mécanisme d'horloge qui se défend. Il franchissait au galop les âges qu'il ne lui était pas accordé d'atteindre dans le temps, et durant les dernières 24 heures, il devint un vieillard. Le soir, à 7 heures, il mourut. Il s'était affaissé dans son lit et avait ordonné brièvement qu'on le soulevât. Il avait dit avec une certaine hâte qu'il devait immédiatement rédiger et remettre une demande de prolongation de son congé, et tandis qu'il disait cela, le bref trépas s'accomplit. Son œil tourna, l'inconsciente tension de ses traits disparut, et le muet visage de notre Joachim retrouva la beauté d'une jeunesse virile. C'était fini. Ce fut Hans Karstorp qui, de la pointe de l'annulaire, abaissa les paupières de celui qui n'avait plus ni souffle ni mouvement. Et ce fut lui qui joignit doucement ses mains sur la couverture. Puis il se leva et pleura, laissa couler sur ses joues ce liquide clair qui coule partout dans le monde si abondamment, si amèrement et à toute heure, au point qu'on a donné à la vallée terrestre un nom poétique qui rappelle ce produit alcalin et salé des glandes que le bouleversement nerveux d'une douleur qui nous transperce arrache à notre corps. Le lendemain, dans sa chemise de soie à manchettes, parmi les fleurs répandues sur la couverture, reposant dans une clarté mate et neigeuse, Joachim était devenu encore plus beau. Toute trace d'effort avait maintenant disparu de sa figure. Refroidie, elle avait pris sa forme silencieuse la plus pure. Ses cheveux noirs et légèrement bouclés tombaient sur un front immobile et jaunâtre qui paraissait pétri dans une matière noble et délicate entre la cire et le marbre. Et dans la barbe, également crépue, les lèvres ondulaient, pleines et fières. Un casque antique eut convenu à cette tête, comme le firent remarquer plusieurs visiteurs. Madame Stör, leur agaçante voisine de table, pleura avec enthousiasme.
« Un héros ! Un héros ! » s'écria-t-elle plusieurs fois.
« Taisez-vous donc !» siffla Settembrini à son côté, tandis que Hans Castorp effleurait délicatement des lèvres en signe d'adieu le front glacé de son Joachim d'autrefois. Nous laissons tomber le rideau pour l'avant-dernière fois. Mais tandis qu'il s'abaisse, nous allons encore, en notre esprit, avec Hans Castorp, qui, le lendemain, est resté sur la haute montagne, regarder avec lui au loin, en prêtant l'oreille, vers un humide cimetière du pays plat, où une épée scintille et s'abaisse, où des commandements retentissent, et où une triple décharge, trois saluts héroïques, crépite au-dessus du tombeau de soldat de Joachim Simsen.
Dans le vieux parc solitaire et classique, de formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont mortes. Et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et classé, de spectres ont évoqué le passé, te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'ils m'en souviennent? Qu'il était bleu le ciel, le grand l'esprit, l'espoir a fui vaincu. Le ciel noir, tel il marchait dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Et voici le dénouement de l'intrigue avec son brutal réveil à la vie. Bien au-delà des trois semaines prévues au départ, le séjour de Hans Castorp à Berghof aura duré 7 ans. Cette année durant lesquelles le jeune homme, insouciant et mélancolique, s'est laissé porter par la vie si particulière au sanatorium, rythmée par les cures de repos et les promenades. Une vie à l'abri du monde, déchargée de toute responsabilité, où le temps, au sommet de cette montagne magique, finit par ressembler à l'éternité. Enfin, acclimaté, le jeune pensionnaire croit avoir trouvé dans l'oisiveté le sens profond de la liberté. Malgré les conversations politiques avec son ami Ludovico Settembrini, il ne voit rien venir de la catastrophe qui s'annonce. Nous sommes à la fin de l'été 1914. Extrait du 7e et dernier chapitre, Le coup de tonnerre. C'est ainsi qu'il restait étendu, et c'est ainsi qu'une fois de plus, au plein été, de la saison de son arrivée, pour la 7e fois, il ne le savait pas, l'année accomplissait sa révolution lorsque... Lorsque retentit... Mais la réserve et la pudeur nous interdisent de renchérir en narrateurs zélés sur ce qui retentit et arriva alors. Surtout pas de vantardise ici, pas d'histoire de chasseur. Modérons notre voix pour annoncer que retentit alors le coup de tonnerre que nous connaissons tous, cette explosion étourdissante d'un mélange funeste d'hébétude et d'irritation accumulée, un coup de tonnerre historique qui, disons-le à voix basse et avec respect, ébranla les fondements de la terre, et qui est, pour nous, le coup de tonnerre qui fait sauter la montagne magique et qui met brutalement à la porte notre dormeur éveillé. Ahuri, il est assis sur l'herbe et se frotte les yeux comme un homme qui, en dépit de maintes admonestations, a négligé de lire les journaux. Son ami et mentor méditerranéen s'était efforcé de lui en tenir lieu dans une faible mesure et avait eu à cœur de renseigner son enfant terrible sur les événements d'en bas. Il n'avait toutefois rencontré que peu d'attention chez un élève qui, tout en se plaisant à rêver et à gouverner les ombres spirituelles des choses, n'avait jamais accordé d'attention aux choses elles-mêmes, dans sa propension orgueilleuse à tenir les ombres pour les choses et à voir en ces dernières des ombres. C'est alors qu'eut lieu l'assassinat de l'archiduc, qui fut pour tous, hormis pour certains dormeurs allemands, l'annonce d'une tempête. Un signe pour ceux qui savaient et au nombre desquels nous sommes fondés de compter M. Settembrini. Mais durant les jours de l'attente la plus accablante, pendant lesquels les nerfs de l'Europe restèrent tendus par une véritable torture, Hans Carstorp ne vit pas M. Settembrini. Les atroces nouvelles montaient à présent directement des profondeurs du pays plat jusque dans sa loge de balcon. Elles ébranlaient la maison, emplissaient la salle à manger de l'odeur de soufre qui oppressait la poitrine et même les chambres des grands malades et des moribonds. C'était ces mêmes instants où le dormeur, allongé dans l'herbe, ne sachant pas ce qui lui arrivait, se redressait lentement avant de se mettre sur son séant et de se frotter les yeux. Nous allons développer cette image pour rendre compte de son état d'âme. Il ramena ses jambes, se leva et regarda autour de lui. Il se vit exorcisé, sauvé, délivré, non par ses propres forces, ainsi qu'il dut le constater à sa confusion, mais expulsé par des forces élémentaires et extérieures pour qui sa délivrance était tout accessoire. Mais encore que son petit destin se perdît dans le destin général, une certaine bonté qui le visait personnellement, une certaine justice divine par conséquent, ne s'y exprimait-elle pas malgré tout ? La vie prenait encore une fois soin de son enfant gâté, non pas d'une manière légère, mais d'une manière grave et sévère, au sens d'une épreuve qui, dans ce cas particulier, ne signifiait peut-être pas la vie, mais trois salves d'honneur pour lui, le pécheur. Et il tomba donc à genoux, le visage et les mains levés au ciel, qui était sombre et chargé de vapeurs de soufre, mais qui du moins n'était plus la voûte caverneuse de la montagne des péchés. C'est dans cette position que M. Settembrini le trouva. Nous parlons, cela s'entend, par parabole, car en réalité, nous le savons, la réserve de notre héros excluait des attitudes aussi théâtrales. Dans la froide réalité, le mentor le trouva occupé à faire ses malles, car depuis l'instant de son réveil, Hans Carstorp s'était vu entraîné dans le tourbillon des départs précipités des premières mobilisations, dont le coup de tonnerre avait donné le signal depuis la vallée. Le pays d'en haut ressemblait à une fourmilière prise de panique. Sur le quai de la gare grouillante et qui sentait le brûler comme si la foudre y avait éclaté, Ludovico Settembrini étreignit Hans Carstorp. Adio Giovanni mio. J'aurais préféré te voir partir dans d'autres circonstances, mais soit. Les dieux en ont disposé ainsi et pas autrement. C'est au travail que je pensais te voir retourner, mais voici que tu vas combattre parmi les tiens. Mon Dieu. C'était ton lot et non pas celui de ton cousin, notre pauvre lieutenant. C'est la vie. Bats-toi bravement là où ton sang t'y oblige. Personne ne peut faire davantage à présent. Gêné par tant d'émotions, Hans Carstorp se glissa entre 10 autres têtes qui comblaient le cadre de la portière du compartiment. Par-dessus elle, il fit un signe d'adieu. Monsieur Settembrini, lui aussi, agita sa main droite tandis que, de la pointe de l'annulaire de la gauche, il effleurait délicatement le coin de l'œil pour y retenir une larme. Et voici pour conclure quelques mots du poignant épilogue de l'histoire. Où sommes-nous ? Qu'est-ce que cela ? Où nous a transporté le songe ? Crépuscule, pluie et boue, rougeur trouble du ciel incendié. C'est le plat pays, c'est la guerre. Et nous sommes des ombres timides au bord du chemin, confus de jouir de la sécurité des ombres, peu disposés à nous répandre en vantardises et en histoires de chasseurs, amenés ici par l'esprit de notre récit, pour regarder dans le visage simple de l'un de ses camarades en gris, qui court, qui se précipite, que talonne le crépitement saccadé, qui s'essaime hors de la forêt, du compagnon de tant de petites années, du brave pêcheur dont nous avons si souvent entendu la voix, pour regarder une dernière fois ce visage, avant de le perdre de vue. Adieu, que tu vives ou que tu tombes, tes chances sont faibles. Ah, toute cette belle jeunesse avec ses sacs et ses baïonnettes, ses manteaux boueux et ses bottes. On pourrait, avec une imagination humaniste et enivrée de beauté, rêver d'autres images. On pourrait se représenter cette jeunesse se promenant sur la grève avec la bien-aimée, les lèvres à l'oreille de la douce fiancée. Au lieu de cela, elle est couchée, le nez dans cette boue de feu. Ils sont couchés, ils tombent, battant des bras, touchés au front, au cœur, aux entrailles. Ils sont couchés, le dos soulevé par le sac, l'occiput enfoncé dans la terre et griffe l'air de leurs mains. Ils sont couchés, le visage dans la boue, et ne bougent plus.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, en partenariat avec le magazine littéraire, a été réalisée par Xavier Pestudia, avec Valérie Lavalard à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Isor Pisani-Ferry.
C'était une rediffusion de « Ça peut pas faire de mal ». Vous retrouverez les lectures de Guillaume Gallienne tous les soirs après le journal de 23h.